À notre émission Libre-Échange aujourd'hui, on revient sur les 110 ans de cette histoire qui a marqué la question de la pêche en Gaspésie au Québec. À Rivière-Ordnard, on parle de la révolte des pêcheurs et ça débutait un 4 septembre officiellement. Mais pour revenir un peu sur les événements et la suite des choses, l'historienne originaire de Rivière-Ordnard, Véronique Dupuis, est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, 110 ans aujourd'hui que débutait cette histoire-là, j'aimerais qu'on revienne un peu auparavant parce qu'il faut dire qu'avant la sortie des pêcheurs et les manifestations qui débutaient le 4 septembre, disons qu'il y a eu des événements qui ont fait en sorte qu'on a abouti à cette journée-là.
Oui, en fait, il faut se rappeler qu'on est dans un contexte de commercialisation de la morue sur le territoire atlantique et qui... On est aussi aux prises avec la main basse d'investisseurs étrangers comme les Jerseyais en territoire gaspésien. Donc, on a l'histoire des pêcheurs qui sont un peu sous le joug des marchands de morue. Et ces marchands-là contrôlent en fonction de différentes raisons qu'on va taire pour
le bien de l'entrevue.
Oui,
c'est ça.
Pardon, oui, pour le bien de l'entrevue, mais en fait, le prix du quintal était fixé par les marchands de morue. Et à la fin août, en fait, 1909, c'est là que tout a commencé. En fait, je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les marchands ont annoncé un prix du quintal de morue à $3.50. Or, les pêcheurs s'attendaient à $5 le quintal. Et le fait d'avoir un prix si bas pour le quintal de morue, ben ça a semé beaucoup d'inquiétudes chez les pêcheurs. À $3.50, c'était la saisie des biens des terres qui pouvaient se profiler très rapidement. Et c'était aussi, on était un peu tanné de devoir quémander d'être un peu à la merci des marchands. On a en tête le système de troc à crédit, donc on était toujours à crédit face aux marchands. Et quand je dis que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je pense que les pêcheurs ont pris conscience. À ce moment-là, ils ont fait le calcul de pas de pêcheurs, pas de poissons. Et là, ils ont pris conscience qu'il y avait une réelle importance dans l'équation mathématique de la commercialisation de la pêche à la morue. Et c'est le soir même de la journée où l'information est tombée là, concernant le prix du quintal, qu'on s'est entassé quelques pêcheurs dans la cuisine de chez Joseph Tapp, donc un homme au verbe facile et qui était quand même assez engagé. Et le constat est devenu évident, là, on devait agir collectivement dans le bien de tous.
Okay.
Donc, on peut voir un peu le système coopératif là qui vient se mettre en place. On assiste un peu au balbutiement de tout ça dans la cuisine de Joseph Tapp.
OK. Et pour le bienfait des auditeurs, auditrices, on parle de quintal. Ça représente quoi, ça, en poids, j'imagine, là, quand on parle de quintal de morue?
Oui, un quintal, en fait, équivaut à 55 kilos de morue.
Quand même. Et
oui.
on parlait aussi de troc parce qu'à l'époque, on fonctionnait comme ça. Hein? Il n'y avait pas de... dans le fond, parce que l'acheteur de poissons était le magasin général qui fournissait à peu près tout aux citoyens. C'était pas nécessairement des sommes d'argent qui étaient versées aux pêcheurs, mais souvent, c'était une question de troc là, pour l'achat à l'année là, de produits dont on avait besoin pour vivre à ce moment-là.
Exactement. Donc, le pêcheur, avec le système qui était en place, se faisait pas payer son poisson. Donc, au printemps, le pêcheur devait acheter à crédit, si on veut, dans les magasins généraux des marchands. Et ce crédit-là était remboursé à la fin de la saison avec le poisson qui était ramené du large. Mais le système en place faisait en sorte que souvent, c'est le pêcheur qui se retrouvait perdant et donc devait acheter à crédit pour les denrées nécessaires pour passer l'hiver avec la famille.
Mm-hmm.
Et là, on peut comprendre qu'au printemps, il y avait un endettement supplémentaire qui arrivait pour acheter les gréments essentiels pour la nouvelle saison de pêche. Donc, c'était un peu une spirale et le pêcheur, lui, voyait voyait les dettes augmenter et savait pertinemment que ça allait être les générations futures qui allaient être aux prises avec ces dettes-là.
OK. Parlons du 4 septembre. Alors, il y a eu une rencontre.
Oui.
Et tout le monde a dit qu'il faut faire quelque chose. Ça s'est passé le 4 septembre.
Et là, la décision s'est prise à l'unanimité. Et on a dit, on va visiter les marchands un à un à Rivière-au-Renard et on va réclamer un prix de 4 $ du quintal, plus l'abandon des saisies des poursuites pour dette, parce que ça aussi, c'est un facteur. Il y avait des procès engagés pour des saisies de terrain ou de biens ou des poursuites pour les dettes engagées dans les saisons ultérieures. Donc, la décision a été prise de mener une action collective face aux marchands et c'est le 4 septembre là, qu'une cinquantaine d'hommes sont partis de Lens-Avallo, de l'Échouerie et de Petit-Cap en direction de Rivière-au-Renard. Ils sont partis dans la nuit, sont arrivés très tôt en matinée et rapidement, quand ils entrent dans le village de Rivière-au-Renard, ils sont rejoints par d'autres pêcheurs. Et bon, si au départ, il y était une cinquantaine, ils sont bientôt une centaine à prendre part à la manifestation.
Quand même énorme pour l'époque. Il y a eu comme un choc là, pour justement les marchands, là.
Oui, ben c'est ça. Il y a eu une escalade d'événements en fait entre le 4 septembre et je pourrais même dire depuis la fin août là jusqu'au 18 septembre, il y a eu une escalade. C'était un épisode qui a duré un bon 2 semaines et qui a fait en sorte que oui, ça a enlevé un peu le calme du village de Rivière-au-Renard à l'époque. En fait, la procédure qu'on a suivie dans la journée du 4 septembre, c'est que oui, évidemment, on était allé voir les marchands un à un. On a commencé par Charles Lemarquand, qui était agent de la Charles Robin Colas & Company, qui lui est d'emblée sorti de son établissement à la vue du groupe d'hommes. Et les pêcheurs l'ont encerclé tout de suite et ont énoncé leur demande. Donc, le prix du quintal et l'abandon des saisies et du procès pour dette. Et le marquant, lui, sa façon de régler les choses, a dit, ben il a comme pas voulu se mouiller. Il a dit, ben moi, je peux pas prendre la décision, c'est le siège social à Pespébiac qui décide du prix. Alors là, lui, peut-être qu'il pensait se défiler comme ça, mais rapidement, il a vu que le groupe insistait quand même pas mal. Il était pas venu pour discuter là, ces pêcheurs-là. Donc, ils ont insisté et le marquant a dû se rendre au bureau de télégraphie pour envoyer la demande à Pespébiac. Et là, on assiste au même scénario pour Connick Kennedy, un autre agent de marchand, qui lui a refusé d'entendre les demandes ou a refusé d'accepter la demande parce que lui non plus voulait pas se mouiller et a dû aussi envoyer la demande par télégraphie là au siège social. Chez Horacio Hyman, donc les fameux magasins Hyman, on a eu la visite des pêcheurs aussi. Hyman était absent parce qu'il était en train de négocier avec un capitaine acheteur de morue venu d'Halifax. Et c'est Philippe Romeril, qui était agent de Grande Rivière à l'époque, qui veillait au grain cette journée-là à Rivière-au-Renard, qui était pris dans ce tumulte-là. Et on s'est rendu à la maison privée d'Hyman. Hyman a refusé d'emblée d'augmenter le prix. Et là, rapidement, il s'est retrouvé entouré de plus de 150 hommes. Et là, à partir de ce moment-là, il y a eu une espèce de colère qu'on croyait déjà à son paroxysme. Et quand on est arrivé chez Charles-Vincent Carrel, qui était l'agent de William Fring & Company. Là, il n'y avait plus de négociation possible. Et toutes les demandes ont été télégraphiées au siège social parce qu'il n'y a pas un agent, évidemment, qui voulait prendre la décision. Et une fois que les quatre agents ont été visités, il y a un ultimatum qui a été lancé, donc le 6 septembre, donc 2 jours plus tard, c'était un lundi. Donc, le 6 septembre à 9h, les marchands devaient accepter ou non la demande. Et là, s'il y avait un refus, les pêcheurs ont été très, très formels. On leur a dit, on vous sort du village, on ouvre les magasins et on prend le matériel et on trouve des nouveaux commis. Donc, il n'y avait aucune négociation possible. C'était oui ou non. Et si c'était non de la part des marchands, il allait avoir des conséquences. Et
On va
ensuite,
faire.
on a libéré les quatre marchands.
Alors voilà, donc on va faire une pause. On revient avec la réponse. On va revenir avec la réponse des marchands. Puis après ça, évidemment, ça a brassé beaucoup. La suite des choses nous fait dire en sorte que bon, ça a été un moment très important de l'histoire de la pêche qui se passe à Rivière-Nord. Donc on y revient dans un petit moment.